Entretien du 14 janvier 1980. Visiteur. Quelle est la différence entre souffrance physique et souffrance psychologique ? Maharaj. Quand il existe un désordre dans le corps, la souffrance est physique. Mais quand le désordre est dû aux pensées et aux concepts, la souffrance est psychologique. Avez-vous une idée du moment où tout cela a commencé ? Visiteur. Non, je ne sais pas. Maharaj. Cela a commencé spontanément et à l'intérieur. Mais quand et comment s'est effectué le recensement du premier jour de vie ? Visiteur. À partir de la mort s'est produit la naissance. Avant cela, il n'y avait aucune conscience. Maharaj. À qui, à quoi a été décerné ce titre de naissance ? Creusez ce point. Qu'est-ce qui est réellement né ? Visiteur. Un concept ? Maharaj. Considérer qu'un concept est né n'est pas encore avoir creusé assez profondément. Que s'est-il réellement passé ? Visiteur. L'apparition du temps et de l'espace ? Maharaj. Il vous faut pratiquer beaucoup de Jnana Yoga, yoga de la connaissance, pour pouvoir donner une réponse juste. Il existe un grand nombre d'Upanishads et de yoga, comme le Hatha Yoga, le Pantanjali Yoga et beaucoup d'autres. Mais je ne connais que l'Atma Yoga, qui est la connaissance de soi-même. Le même tas de blé peut fournir un grand nombre de nourritures différentes selon les préparations utilisées. De la même façon, il existe de nombreux systèmes de spiritualité. Je ne suis pas attirée par les savoureuses spécialités, les méthodes et les systèmes. Je ne m'intéresse qu'à leur point de départ. Comment et pourquoi cet être, mon existence et toute la manifestation se sont produits et à partir de quoi ? Plongée dans cette source primordiale, je ne ressens pas ma présence. Comment cet état d'existence d'où résulte la notion de moi et l'autre est-il apparu ? Les Upanishads et les différents systèmes de yoga ne sont que des fantaisies conceptuelles. Je ne m'y suis pas du tout intéressée. Je ne m'intéresse qu'à mon être-té et ma non-être-té. Comment et pourquoi elle se trouve là ? Visiteur. Que je sois né étant lui-même, Maharaj lui coupe la parole. Vous utilisez un concept, une chose qui vous a été répétée, c'est un on-dit. Visiteur. Nous naissons à chaque moment, Maharaj. Oui, oui, à chaque instant a lieu notre naissance. Mais quel est le matériau qui naît ? Visiteur. Qu'est-ce que cela peut être ? Maharaj. Sur le non-être apparaît l'être. Et dans cet être se produisent des millions de naissances, sont créées en un instant des milliers de formes de vie différentes. Visiteur. Mais se peut-il que l'arrière-plan de tout cela ne soit que vacuité ? Maharaj. Il faut un observateur de cette vacuité pour qu'elle soit perçue. Et l'observateur est lui aussi vacuité. Au sein du non-être, comment cela peut-il être exprimé ? Et par qui ? Dans ce non-être appelé Nirvijaya, il n'y a ni sujet ni objet. Dans l'être, au contraire, sujet et objet sont présents, et cet état est donc appelé Sa-Vishaya. Avez-vous compris que le yoga de Pantanjali se déroule dans la dualité ? Avez-vous étudié le yoga ? S'occupe-t-il de libérer ou d'assujettir ? Visiteur. J'ai lu quelques livres sur la question. Oui, le yoga s'attache à la dualité. Maharaj. À partir de quoi Pantanjali a-t-il créé la dualité ? Quand il a établi la dualité, qu'a-t-il divisé ? Et quoi que cela pût être, n'était-ce pas dans le domaine de l'être, dans la sphère du sujet-objet ? Visiteur. Oui, à partir du moment où l'on divise quelque chose, cela devient le domaine de l'objet. Maharaj. Mais le principe ultime est antérieur à la sphère sujet-objet. J'aimerais savoir comment vous avez divisé cet état. Sur le non-être est apparu l'être avec la manifestation en tant que je suis. C'est ce je suis qui est important. Nous avons parlé de la dualité. A-t-elle commencé à l'apparition de l'être sur le non-être ou bien s'est-elle développée plus tard? C'est pourtant simple. Quand l'être surgit du non-être, c'est-à-dire lorsqu'il est perçu. Quand l'être est expérimenté et connu. Il est évident que la dualité est déjà présente. Plus tard, l'être se manifeste dans la multiplicité et fonctionne au travers de formes innombrables. Le bourdonnement initial de l'être en tant que je suis, est la dualité. Mais qui accepte cette dualité? Le non-être l'accepte. L'état absolu, le non-être, devient double en assumant sa propre être-té. Les mots créent la dualité entre nous. Deux personnes sont assises tranquillement, partageant le même silence, sans possible contestation. Mais au moment où elles se mettent à parler, la dualité apparaît. Quand le non-être s'exprime grâce à l'être, être devenu objet au sein de cette manifestation, il est appelé illusion, l'aspect féminin, tandis que le non-être est considéré comme l'aspect masculin. Le fonctionnement de l'univers manifesté est donc expliqué en tant que jeu de Prakriti, aspect femelle, et Purusha, l'aspect mâle. Prakriti est la substance cosmique et Purusha, l'esprit cosmique. Visiteur. Je m'efforçais de suivre un chemin permettant à l'être d'expérimenter le non-être, au manifesté d'absorber le non-manifesté. Je vois maintenant que la première étape est de bien comprendre qu'il s'agit d'une impossibilité. Maharaj, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il vous faut pratiquer de profondes méditations. L'être doit s'immerger totalement dans le non-être. Chaque jour, vous vous débarrassez de vos inquiétudes, de vos tensions, et vous vous laissez glisser dans le sommeil profond. Là, vous vous perdez vous-même. Vous tombez dans l'oubli, dans une détente totale. C'est ainsi que l'être doit se perdre dans le non-être. Quand le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, est suivi correctement, l'être se dissout graduellement et devient non-être. Dans le sommeil profond, spontanément, l'être commence à se mouvoir. Un rêve se déroule. Dans la méditation profonde, il en est de même. Toute la sagesse dont vous aurez besoin vous sera spontanément révélée. Bien qu'ayant compris tout cela et pris conscience de l'irréalité du monde manifesté, vous conservez malgré tout votre individualité. L'état-être est l'état de l'ensemble de la manifestation. Il n'est pas individuel. Il est composé de 5 éléments, espace, air, feu, eau, terre, de 3 attributs, inertie, énergie, harmonie, et Prakriti Purusha, substance cosmique et esprit cosmique, principe mâle et femelle. Plus tard, cet état d'être se perd dans le non-être. Voilà pourquoi j'appelle le processus que je préconise l'Atma Yoga, c'est-à-dire la philosophie du soi, ce qui signifie demeurer en soi, se stabiliser dans sa véritable nature. Vous pouvez parler de Hatha Yoga et de tout ce que vous voudrez. Quand le non-être devient l'état-être, l'univers contenant tout ce qui existe vient au monde. En ce qui me concerne, je suis devenu un avec l'être en suivant les directives de mon maître. Ce qui signifie, avoir la juste vision de n'être rien d'autre que l'ensemble de cet univers dynamique. Lorsque la personne est transcendée, il reste uniquement l'être manifesté, et alors le non-manifesté se révèle. Visiteur. Donc, ce que Maharaja appelle méditation est de demeurer plongé dans cet état d'être. Maharaj. Il n'y a pas de créateur, personne ne m'a créé. Visiteur. Le créateur est déjà le manifesté. Nous avons tout d'abord besoin de ce sens d'être avant de devenir le créateur. Maharaja. La création a lieu par l'entremise de l'intelligence et des concepts de ce créateur. C'est le bourdonnement de son intelligence qui crée le monde. Même solitaire, votre bavardage mental se poursuit. Visiteur. Ce niveau mental lui aussi est créé ? Maharaj. Oui, mais quand ? L'intellect apparaît et fonctionne après que le non-être se soit transformé en être. Je me demande combien de personnes sont à même d'assimiler correctement ces entretiens. Très peu. Une sur un million. Visiteur. Quand l'assimilation a eu lieu, il ne peut plus y avoir de personne. Maharaj. Il n'est pas question de vous ou de moi. Dans l'océan de la manifestation, il y a des millions d'êtres comme vous qui s'agitent comme des vagues, des rides sur la mer. Visiteur. À l'exception du maître, nous sommes tous des rides sur l'eau. Maharaj. Mais quel maître ? Est-il une forme nourrie d'un morceau de pain ? Visiteur. Le maître est une autre façon de désigner l'indescriptible. C'est la première chose que médite mon maître. Je devais, en tant qu'individu, accepter un maître qui me conduirait initialement au manifesté et ensuite au non-manifesté. Maharaj. Mais le maître est l'état manifesté. Si vous acceptez une individualité, vous ne ferez aucun progrès. Il suffit de vous identifier à la totalité du manifesté. Au lever du soleil, la lumière baigne ce qui l'entoure dans toutes les directions. Si vous vous identifiez au manifesté, vous pénétrerez tout ainsi. Mais si vous vous raccrochez à votre identité d'individu, vous ne pourrez faire aucun progrès. La mort étant inévitable, pourquoi ne pas adopter les directives de votre maître ? En le suivant implicitement, spontanément, sans effort, le manifesté deviendra non-manifesté. L'être se fond dans le non-être. Le non-manifesté veut dire total repos, quiétude. Il n'y a plus là ni naissance, ni mort, ni aller, ni venue. Les activités quotidiennes ne peuvent avoir lieu sans le bourdonnement de l'être. Individualité et manifestation sont dues au non-être, devenu être. Cela se produit spontanément, comme soudain s'éveille une personne dormant paisiblement. La personne plongée dans un sommeil profond, ou pleinement éveillée, n'est qu'une seule et même entité. Celui qui dort demeure le même une fois éveillé. Visiteur. État d'éveil est un des autres noms du monde ? Maharaj. Éveil signifie totale manifestation du monde. Une fois éveillé, il retombe néanmoins toujours dans la dualité, demande le visiteur. Maharaj. C'est parce que je vous parle que vous continuez à me répondre. Si vous avez dans votre entourage une personne éclairée, vous pouvez également l'amener ici. Visiteur. Je ne conseille que très rarement à quelqu'un de venir ici. Je ne l'ai fait que 2 ou 3 fois. Maharaj. J'aime ceux qui cherchent véritablement à comprendre. Ceux qui ne viennent que pour argumenter, je les mets dehors. Je demeure continuellement dans le non manifesté. Mais tout arrive par le pouvoir de l'illusion, l'être. L'état manifesté est l'illusion se manifestant elle-même. Un grand poète marathi, se référant au nom manifesté, a écrit ceci. Pensez à une femme stérile qui n'a jamais approché l'homme, concevant et mettant au monde un enfant. De la même manière, l'illusion a accouché du monde manifesté. Ces lettres, résultantes du corps et sens de nourriture, qui a projeté cette manifestation, et elle est l'image du maître. Le non manifesté et l'illusion, le manifesté, ne peuvent jamais se rencontrer. Visiteur. Quelqu'un que je connais a traduit votre livre « Je suis, I am that » dans une langue étrangère et veut l'appeler « Cela, vous êtes ». Maharaj. Cela ne me plaît pas. Qu'il conserve le titre original ou alors qu'il n'en donne aucun. Visiteur. Mais M. Friedman était d'accord. Maharaj. Pas moi. Également, ne diluez pas le contenu du livre par votre propre compréhension, même si vous vous considérez comme un gnani, comme un sage réalisé. Faites ce qu'a fait Friedman. Le texte original doit être traduit sans modification ni révision. Visiteur. Après avoir médité, je conçois bien maintenant combien l'essence de votre enseignement est contenue dans « Je suis ». Si vous voulez absorber l'essence de ce qui est dit dans « Je suis », plongez-vous dans une profonde méditation et vous, état manifesté, abîmez-vous dans le non manifesté. Là se trouve sa signification ultime. Quelle que soit l'expérience que je peux avoir du monde et de Dieu, elle n'est aucunement liée à une faveur ou une grâce spéciale de Dieu envers moi. L'expérience ne relève que de moi-même. Elle est due à l'état que j'ai atteint. Si je n'étais pas, je n'aurais jamais eu cette expérience. Je prédomine, je prévaudrai toujours. C'est par mon être que je fais l'expérience du monde. Je perçois clairement l'unité de l'enseignement des trois grands sages Acharyas, Shankara, Madhava et Ramajuna. L'ensemble de la création s'exhale de Moolmaya, la racine de l'illusion, l'illusion primordiale, et de son chant secret. Toutes les paroles, tous les mots, tous les titres se rapportent à cette émanation. De même, toutes ces images ne sont que l'expression, le bavardage de quelqu'un. Ces images sont issues de la conjugaison, de la relation amoureuse de deux personnes. Cet être-té est nommé Dieu. L'état divin est la dualité. C'est la manifestation tout entière. C'est mon état lorsque je fais l'expérience de quoi que ce soit. Dans mon état non manifesté, lui, pardon, mais mon état non manifesté, lui n'est pas duel. Au sein de cet état, il n'y a ni expérience ni manifestation. Moi, absolu, ne suis pas l'état être. Malgré tout votre savoir spirituel, vous n'êtes pas enclin à abandonner les expériences du corps et de l'intellect. Il suffit pourtant de ne plus vous identifier à ce niveau pour transcender votre état actuel et il ne subsistera plus que l'être. Ensuite, vous transcendrez également l'être pour demeurer au pinacle, au plus haut. Mais vous tenez à vous plonger dans l'être et ensuite dans le non-être, tout en conservant cette personnalité soumise au corps-intellect. Et c'est une impossibilité. Moi, absolu, suis le témoin de mon être, qui est la totalité de la manifestation. Cet état d'être est gratifié d'attributs et de titres glorieux, Dieu, Maheshwar, etc., et ils deviennent alors l'objet de la dévotion des hommes. Mais pour certains, ce que je dis là a une odeur de blasphème. Visiteur, si je dis « je ne suis pas cela », alors il y a aussi « je suis cela ». Maharaj, expérience ne veut pas dire expérimentateur. Visiteur. Il est fait l'expérience de l'expérimentateur. L'expérimentateur est objet, mais il est considéré comme sujet. Je fais, moi, l'expérience de vous et je suis objet et considéré comme sujet. N'est-ce donc pas faux que d'appréhender un objet en tant que sujet ? Si vous prétendez être en train d'exprimer quelque chose, vous êtes un menteur. Tout ce que vous venez de dire n'est qu'un commentaire de mes paroles précédentes. Avez-vous essayé, avez-vous réellement fait l'expérience de ce dont vous parlez ? Visiteur. C'est ma pratique continuelle. J'ai travaillé à tous les niveaux à la recherche d'un jeu. Où que j'aille en quête de moi-même, je ne suis pas là. Maharaj. Je majuscule n'est pas le mot je minuscule, c'est le tout. Visiteur. Je minuscule en tant qu'individu ne suis pas à même de m'approcher de cette totalité. Maharaj. Je n'accuse personne d'être un individu. C'est vous-même qui vous identifiez à cette individualité. La peur de la mort vous empêche de vous transcender au sein de l'être. Visiteur. Le faux seul souhaite persévérer dans la fausseté. Maharaj. Mais je majuscule absolu n'a rien à voir avec le je minuscule personnel. Le je minuscule personnel ne peut donc pas tolérer cet état d'être impersonnel. Il a trop peur de mourir. Cet immuable, éternel je majuscule l'absolu n'a aucune peur de la mort. Ce que vous voulez soutenir, nourrir et prolonger grâce à ces cinq matières élémentaires n'est pas vous. C'est parce que vous vous identifiez à quelque chose d'irréel qu'existe la peur de la mort. Vous, absolu, n'êtes pas le vous personnel. Comprenez-le une fois pour toutes. 24 heures par jour, l'entité personnelle, vous, est nourrie, observée, protégée, de manière à ce qu'elle dure et se prolonge. Autrement dit, vous regardez, nourrissez, conservez, protéger ce qu'en fait vous n'êtes pas. Visiteur. Quand vous vous trouvez face à face avec un lion, il n'y a que deux alternatives, vous échapper ou accepter de vous laisser manger. Maharaj. Il y a une troisième alternative. Faire peur au lion. Puisque de toute façon, dans les deux premiers cas, le lion vous sautera dessus et vous tuera. Pourquoi mourir de peur comme un lâche ? Attaquez courageusement le lion et brisez-lui quelques dents. Celui qui a peur du temps devient la proie du temps. Mais c'est le temps qui devient la proie de celui qui ne le craint pas. Celui qui transcende le temps, l'être et ses attributs, se dissout dans l'absolu. Un sage réalisé dévore continuellement le temps alors que les autres sont dévorés par lui. Un sage réalisé est au-delà du temps, des éléments et des émotions. Visiteur. Il nous faut être très prudents et ne pas nous représenter comme vrai tout ce qui demeure lié au temps. Maharaj. Vous vous considérez comme un sage réalisé. Pourtant, vous êtes bourré de convictions et de complications. La peur du temps est semblable à la peur d'un enfant qui n'est pas né. Visiteur. Je n'ai jamais prétendu me considérer comme un sage réalisé. Maharaj. Le temps est l'enfant d'une femme stérile. Maharaj désigne le visiteur et son voisin. Vous êtes tous deux d'éminentes personnalités, ayant une réputation de spiritualité, et vous êtes venus ici bien armés pour m'attaquer. Mais je vous le dis, vous n'arriverez pas à me trouver. Pourquoi n'ai-je pas peur du temps ? Parce que même la dissolution de cet univers, le Brahman, ne peut pas me détruire. Avant, pendant et après la dissolution, moi l'absolu prévaudrait toujours, intact, intangible et immuable. En mourant, quelle sera votre identité ? Si vous considérez votre mort comme certaine, Pourquoi endurer une mort dégradante plongée dans la peur? Mourez noblement, honorablement, et avant cette mort, devenez le plus haut, l'infini. Fin de l'entretien.